Du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La COP25, la conférence de l'ONU sur le climat, a commencé en début de semaine à Madrid, en Espagne. Près de 30 000 personnes sont réunies pour tenter de trouver des solutions pour respecter l'objectif de limiter à 2 degrés la hausse des températures, objectif fixé par les accords de Paris. Et selon tous les rapports qui se succèdent de la part de tous les comités d'experts, cela n'en prend pas le chemin, loin de là. Et cela conduit à un certain nombre de citoyens, jeunes le plus souvent, à protester, à se rebeller, à manifester leur colère par rapport à l'inaction des gouvernants et par rapport à ceux qui les ont précédés dans la vie. Climat, le fossé des générations est-il infranchissable? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Yanis Bralleret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militant au sein du mouvement de désobéissance civile Extinction Rébellion, mouvement non violent. Vous êtes militant depuis mai dernier et nous attendons dans les secondes qui arrivent Julien Blanchet, qui est rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat et vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Yanis Bralleret, les jeunes sont-ils révoltés contre les anciens?
Je ne sais pas s'ils sont révoltés, mais en tout cas, ils ont tout intérêt de pouvoir se saisir de l'enjeu qui est aujourd'hui à présent devant nous. Je pense que révolté, c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on hérite quand même de 50 ans d'avancer sur les questions environnementales, d'analyses dont on a eu le Club de Rome 72, on a eu création du GIEC 88, on a eu tout un tas d'analyses qui sont arrivées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps, c'est le moment. Je pense même qu'on a beaucoup de retard. En vérité, on a beaucoup de retard. Oui.
Est-ce que le fait d'être jeune ou plus neuf dans la vie donne une plus grande légitimité par rapport à ceux qui ont vécu d'autres années?
Je pense pas que ça donne plus de légitimité, mais ça force du coup à se poser des questions qu'on se pose plus forcément. C'est-à-dire qu'une fois que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on a vu le système, qu'on s'y est installé, qu'on a fait ça de début de carrière, on a tendance à avoir pris pour acquis tout un tas d'éléments qui aujourd'hui, voilà, on arrive, nous on nous a fait tout un tas de promesses, d'étalages en disant voilà, faites des études, installez-vous, ayez un prêt étudiant, un prêt immobilier, un prêt auto, etc. Et tout se passera bien. Et en fait, on se rend compte que tout se passe pas bien. Et qu'au contraire, en suivant tout ça, on fonce droit dans le mur, que ce modèle qu'on nous a vendu est précisément ce qu'on doit amender, réformer, changer structurellement, profondément.
Julien Blanchet, vous nous avez rejoint à l'instant. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle, vous êtes un rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat et vice-président du Conseil économique, social et environnemental. On va revenir sur cette Convention citoyenne dans quelques instants. Est-ce que vous, sur ces questions de climat, vous ressentez une différence d'approche entre les jeunes et les plus anciens?
Une différence d'approche. Il y a une prise de conscience globale de la population. On le voit aujourd'hui, c'est la première préoccupation des Français. Ça passe même, selon les sondages d'opinion, mais même devant le pouvoir d'achat. Donc on voit qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais finalement, comme sur beaucoup de sujets, effectivement, les jeunes sont à l'avant-poste de ce genre de défis, qui sont des défis sociétaux, en réalité, de mode de vie. Ils l'ont été par le passé, ils le sont à nouveau, effectivement.
La différence d'approche, est-ce que ça peut se traduire par une vraie opposition d'intérêts, selon vous, Yanis Bralleret?
Oui, ben en fait, forcément, les intérêts divergent d'abord sur la structure économique, c'est-à-dire que plus on vieillit, dans les théories, on doit supposer accumuler du capital, et plus on a d'argent, plus on a des choses à perdre. C'est-à-dire plus on est installé dans un système qui nous a nourri, qui nous a installé, qui nous a permis de faire carrière, plus on a intérêt à ce qui reste le même. C'est-à-dire qu'on le voit même dans la psychologie des gens. On observe progressivement des personnes qui deviennent de plus en plus conservatrices avec l'âge et qui ont de plus en plus peur de ça. Après, il y a quelque chose que je viendrais nuancer dans ça, c'est-à-dire que on n'a pas de structure homogène chez les jeunes.
Oui, j'allais vous le dire. Est-ce que c'est pas une forme de généralisation de dire ça un petit peu parfois?
Non, bien sûr. C'est pour ça que je viens nuancer avant même de pouvoir avancer sur ça. C'est-à-dire que au sein même de ma classe d'âge, je vais dire les 18-25 puis les 25-30, on n'est pas du tout homogène. Quoi. On voit que on a déjà des gens qui sont très contents de ce système et qui voudraient justement pouvoir s'y insérer. Et ça dépend énormément aussi de son capital culturel, tout un tas d'éléments qui viennent biaiser et
changer ça. Julien Blanchet, là-dessus?
Non, mais effectivement, il n'y a pas une jeunesse, mais il y a des jeunesses. Et je crois que c'est pas un bloc monolithique, les jeunes, qu'il faudrait appréhender de manière globale. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans notre pays, les jeunes sont trop présentés comme un problème. C'est un problème pour l'échec à l'université, c'est un problème de classe, et parfois on entend aussi un problème de délinquance. Oui, sauf que là, les jeunes sont la solution. Ils sont la solution parce que c'est eux qui mettent le sujet.
Ils sont les premiers concernés.
Et puis ils mettent les mains à l'agenda politique, pardon. Mais on peut critiquer, certains critiquent les marches des jeunes pour le climat. Oui, enfin, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est aussi par là, pas que, mais c'est aussi par là que il existe une nécessité de mettre ce sujet à l'agenda politique. Donc, il ne s'agit pas de faire une espèce d'artefact d'un conflit générationnel où il peut exister sur d'autres sujets. Mais sur celui-ci, je ne crois pas. Je suis convaincu que, et c'est d'ailleurs le sens de la Convention citoyenne, c'est-à-dire que c'est bien les Français dans leur ensemble, les institutions aussi de notre démocratie, qui trouveront les solutions. Il n'y aura pas des solutions si elles se font contre. Elles doivent se faire avec, et on doit dessiner un futur où tout le monde a envie d'aller. Parce que finalement, on l'a vu, c'est-à-dire des solutions pensées par notre système technocratique, allié parfois à notre système politique, il y en a plein qui ont été proposées. Mais elles n'ont jamais abouti, parce qu'il y a besoin d'un consensus démocratique et de faire bloc à un moment pour répondre à ce défi.
Alors on va passer à ça rapidement. Je voudrais quand même relancer sur cette question de fossé des générations, même si c'est un artefact, comme vous dites, et c'est vrai. Les personnes âgées, les baby-boomers, ou tout simplement les boomers, comme on dit, comme ils sont moqués ces jours-ci sur les réseaux sociaux, ceux qui sont nés dans l'immédiate après-guerre, est-ce qu'ils sont infondés, selon vous, Yanis Bralleret, à donner leur avis sur les questions de climat? Est-ce qu'ils sont, ils en ont trop profité pour avoir leur mot à dire?
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont trop profité pour avoir leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Cependant, effectivement, on peut comprendre qu'ils aient pas forcément envie de changer parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. Et en fait, je pense qu'ils le subissent aussi, cette pression-là, ce système-là. C'est-à-dire que, certes, ça a été des belles années où on ne s'est pas trop posé les questions. On va dire, voilà, les 30 glorieuses. Mais
il y avait d'autres priorités.
Il y avait d'autres priorités. Moi, je pense par exemple avec pour mes grands-parents. Je pense à mes grands-parents et ils ont connu. C'est des personnes qu'on connu directement chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Le manque, la guerre. Donc c'est évidemment que je peux comprendre qu'il y a cette volonté de mettre sur le premier plan d'abord une stabilité économique et bien sûr que la croissance des énergies fossiles, ça nous a aussi sorti d'une extrême pauvreté. Ça nous a sorti d'une France assez compliquée. Voilà, on a quand même dû reconstruire. Les énergies fossiles, ça a beaucoup aidé. Ça a émis beaucoup de gaz à effet de serre et aujourd'hui, il faut pouvoir penser contre ce qui nous a nourri. En fait, c'est aussi ça le problème et c'est ça qui fait que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question, c'est une question surtout d'habitude des difficultés à penser contre ce qui nous a été inculqué.
Oui, Julien Blanchet, donc vous êtes d'accord, les personnes qui n'ont pas 20 ans ou 25 ans ne sont pas complètement décrédibilisées pour parler de ces questions-là. Elles ont le droit de prendre conscience elles aussi.
Mais évidemment, d'ailleurs dans la convention, ça va de 16 ans à plus de 80 ans. Mais évidemment parce que de quel droit on dirait non, finalement vous n'avez plus rien à dire parce que vous avez dépassé tel âge, enfin je veux dire,
c'est pas vous qui serez concerné,
c'est-à-dire que à des sujets impérieux on ne peut pas répondre par des coups de menton.
C'est une question philosophique finalement presque. Est-ce qu'une génération peut juger les précédentes à l'aune de ses propres priorités? Yanis Bralleret, vous avez une minute. Non, pas quatre heures.
Non, mais j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose qui revient depuis à peu près, je dis à peu près toujours, c'est-à-dire qu'on a ce combat entre les modernes et les anciens, on a toujours eu les jeunes puis ceux qui arrivaient, on a l'impression d'un coup qu'il y a un changement dramatique, alors qu'en fait, cette question, elle a toujours été là. Aujourd'hui, le fait est que, pour moi, alors là, du coup, un peu polémique, le vote de quelqu'un qui a 18-25 ans ou qui a 18-30 ans devrait avoir plus de poids. Je suis même intéressé à l'idée qu'on mette de la proportionnalité dans...
La pondération, on pondère les votes.
La pondération, ou la proportionnalité soit dans la représentation finale des élus ou de la pondération dans les votes. Mais pour moi, c'est pas normal que quelqu'un qui entre guillemets, a statistiquement peu de chances de rester encore 20-30 ans dans un monde qui est en train de dépérir, puisse avoir autant de poids... du moins démocratiquement et juridiquement, quoi.
C'est un peu comme ce qui s'est passé pour le Brexit en Angleterre, c'est-à-dire que des générations plus âgées auront dicté leur avenir à des plus jeunes qui ont peut-être moins de poids pour le vote. C'est la même idée.
C'est-à-dire la même idée.
C'est-à-dire que les anciens ont décidé pour les plus jeunes, quoi. Voilà.
Moi, je pourrais comprendre que ça puisse en frustrer plus d'un. Et après, la question qu'il y a derrière, c'est une fois qu'on a fait surreprésenter les plus jeunes, est-ce qu'on va pas se retrouver avec la même structure d'idées, quoi? C'est-à-dire qu'on se retrouve. C'est comme quand on dit si les non-votants étaient allés voter, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels ils auraient voté comme ceux qui sont allés voter. Donc,
donc la convention, une forme de piège. La convention citoyenne dont vous êtes le vice-président, Julien Blanchet, la convention citoyenne pour le climat, c'est 150 personnes tirées au sort. Pour formuler des propositions, vous me détrompez, si je dis une bêtise.
Je suis vice-président du CESE,
Du CESE, oui, pardon.
Et rapporteur général du comité de gouvernance. permanence de la Convention citoyenne.
Pour formuler des propositions afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Elle a été voulue par le président de la République à l'issue du grand débat national. C'est ça? Comment est-ce que vous voulez compléter éventuellement?
Non, mais c'est ça. Mais si vous voulez, c'est un alignement des planètes. Il y a une crise démocratique qui n'est pas nouvelle. Alors.
Qui est assez évidente depuis un an, on va dire, mais voilà.
Oui, qui est assez évidente depuis un an, mais si vous voulez, quand moi je regardais, vous dites pourquoi pas donner plus de poids aux jeunes, mais aujourd'hui, je regarde les taux d'abstention, on voit bien que l'offre politique présentée, visiblement, n'est pas très attrayante. Mmh. Donc c'est déjà un premier problème. Ensuite, il y a eu un alignement des planètes sur une crise démocratique, une crise climatique, une incapacité, ça n'est pas désobligeant que de le dire, mais il y a eu une incapacité finalement de nos gouvernements, de nos parlements depuis longtemps à répondre à ces questions. Mais en Irlande, par exemple, ils ont fait une convention citoyenne sur la question de l'avortement. Et les parlementaires irlandais assument parfaitement de dire, mais parce que nous n'y arrivions pas. Mmh. Et donc, il y a eu cet alignement des planètes-là. Au CESE, vous avez 81 organisations de la société civile qui sont représentées, donc les plus grandes organisations en France, qui ont dit, on est prêt à y aller. Je ne sais pas si ça aurait été le cas il y a 10 ans, de dire que ces citoyens ont une place à leur côté, par leur simple expérience de vie. Et puis, vous avez aussi des collectifs citoyens qui se sont formés, qui étaient peut-être plus éparses il y a quelques années, et qui aujourd'hui ont été capables de se mettre d'accord entre eux pour proposer une solution. Donc vous avez eu un alignement des planètes, le mouvement des Gilets jaunes évidemment, et puis, il faut le dire quand même, parce que ces idées sont pas nouvelles, mais aujourd'hui c'est ce gouvernement qui le met en place. D'autres ont refusé déjà par le passé des systèmes plus engageants sur la démocratie participative.
Yanis Bralleret, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ?
Alors, j'en pense beaucoup de bien et beaucoup de réserves. C'est-à-dire que pour moi, une assemblée qui n'est pas décidante, enfin, ce qui manque à cette assemblée pour moi, c'est l'outil législatif. Pour moi, ce qui manque, c'est la finalité. C'est-à-dire que le risque qu'il y a derrière, c'est qu'on fasse de très belles mesures qui passent soit par référendum, soit par voie parlementaire ou soit par voie réglementaire, et que derrière, le référendum, la population n'en veuille pas, dise non, ou que par la voie parlementaire, les parlementaires n'en veuillent pas non plus et que ce soit modifié. Il y a cette espèce de crainte.
Vous avez une crainte démocratique ? Excusez-moi, je vous pose la question très directement.
Non, tout l'inverse. Justement, pour moi, la démocratie, c'est la convention citoyenne. Pour moi, la démocratie, c'est, je pense que une assemblée tirée au sort est plus représentative et plus légitime, selon moi, que l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que du simple fait qu'on a une représentativité des classes d'âge, des professions, qu'il n'y a pas de stratégie politique de réélection, il y a tout un ensemble de biais qui sont effacés par le processus même du tirage au sort et qui a beaucoup de bénéfices.
Julien Blanchet, l'intérêt, effectivement, c'est peut-être une meilleure diversité qu'au Parlement, par exemple.
Bien sûr. Ouais.
Non, ça, je vous suivrai pas, Yanis, sur ça. Ça, c'est très clair. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis un peu moins jeune que vous, mais on est quand même dans la même tranche d'âge encore. Et moi, je crois pas que ce soit avec ces conflits de légitimité entre le Parlement, les citoyens, les syndicats, parce qu'on entend les parlementaires dire la même chose quand on fait des négociations collectives. Moi, je ne crois pas que ce soit avec ces vieux débats qui ont conduit à avoir une démocratie mandat exclusive que l'on résoudra le problème.
Vous voulez dire que c'est la façon de poser la question?
Mais c'est la façon de poser la question qui induit la réponse. Parce que je crois qu'il faut respecter la légitimité de chacun. La légitimité de cette convention citoyenne, elle est acquise par sa diversité. Donc là, effectivement, sur le fait d'avoir plusieurs profils. Mais au CESE, vous savez, il y a une esthéticienne, un boulanger, un prix Nobel de la paix, des gros patrons de boîtes. Enfin, il y a aussi cette diversité. Mais c'est vrai que, force est de reconnaître qu'au Parlement, elle est moins présente. Donc la légitimité de cette convention, elle tient à la diversité des 150. Le sort ne confère pas une légitimité personnelle. Il ne peut conférer qu'une légitimité à 150. Et c'est ça qui est beau dans cet exercice. C'est parce que, et les citoyens l'ont bien compris, leur force, c'est leur diversité et leur collectif. Mais après, le Parlement fera son travail, parce que nous sommes dans un système démocratique où les parlementaires ont été élus, avec tous les défauts que ça implique. Mais il y a beaucoup d'autres systèmes qui ont été essayés, mais visiblement, j'en ai pas connu d'autres qui étaient aussi performants que la démocratie. Donc, le Parlement fera son travail de parlementaire et fera un travail très politique quand il s'agira d'argumenter sur des propositions de citoyens.
Yanis Bralleret.
Ouais, j'aurais aimé revenir justement sur ça. Pour moi, on disait justement que c'est un problème, vous l'avez souligné en disant ça fait qu'un an à peu près qu'on se rend compte que d'un coup c'est prégnant ce manque de démocratie, alors qu'en vérité, c'est presque dans les statuts même.
Je voulais parler de la crise des Gilets jaunes, évidemment.
Pour moi, c'est pas
de manque de démocratie, mais de crise de représentativité, disons.
Mais voilà. En fait, pour moi, c'est dans les statuts même de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit nommer nos maîtres et qu'on n'est pas nous-mêmes décideurs de notre constitution, de nos lois, de tout un ensemble de structures qui nous dominent, dans lesquelles on est obligé d'évoluer, on ne pourra que faire entre guillemets de mauvais choix. Tant qu'on sera là pour désigner nos maîtres, on ne pourra pas vivre véritablement en démocratie. Donc pour moi, c'est tant qu'on n'aura pas plus de direct, enfin quand je dis plus direct, c'est des événements comme la convention citoyenne, mais avec l'accès à la loi et pour réformer les structures, on pourra se condamner qu'à passer la serpillière. Je reprends la citation de Frédéric Lordon.
Ah oui, Julien Blanchet, est-ce que cette structure de convention de personnes tirées au sort peut permettre de susciter des propositions inattendues, des choses qu'on n'a pas encore imaginées en fait?
Bah, déjà, moi je crois que la parole collective en France, elle a encore une valeur. Et donc c'est pourquoi je respecterai toujours le choix des organisations, le choix des partis politiques, de se mettre d'accord et de porter une parole collective. Ensuite, est-ce que convention citoyenne va décoiffer, va faire des propositions inattendues? Non, mais c'est-à-dire que ça, c'est quand même... parce que moi, je tiens beaucoup à l'indépendance de cette convention. Et c'est pourquoi je respecte ce qu'elle dira, quoi qu'elle dise. Et sur les questions, le mandat qui leur est donné, c'est donc comment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Sur la première partie de la question, sur comment diminuer, beaucoup de choses ont été dites. Les ONG ont fait un travail formidable en faisant beaucoup de propositions, les scientifiques, certains politiques aussi ont des propositions à formuler, beaucoup de choses ont été dites. Par contre, on est embuté systématiquement sur la question de la justice sociale. Et je crois que c'est là où les citoyens, effectivement, ont vraiment une plus-value, peuvent inventer des choses pour dire comment on peut envisager ce changement de mode de vie, de société, tout en ayant une société qui soit plus soudée, qui fasse plus corps. Et je crois que c'est là où, effectivement, ils sont en capacité, et d'ailleurs, ils le montrent déjà, à inventer des choses.
Oui, Yanis Bralleret, est-ce que vous espérez des propositions plus radicales que ce qu'on a entendu jusqu'à présent?
Mais moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère aujourd'hui. La grande force de cette convention, c'est justement qu'elle puisse être ambitieuse. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait que pêcher par manque d'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a une espèce comme ça de fenêtre de tir très courte dans le temps et qui est assez incroyable, qui doit pouvoir lui permettre justement de se saisir de ces sujets et d'aller aussi loin que possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je salue. Dès le début des débats, ils ont commencé à discuter, mais pourquoi 40%, pourquoi pas plus, gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on y arrive, quel type d'énergie. Il y a tout un ensemble de débats que je trouvais très très intéressant, et à ce sujet j'espère qu'ils vont pouvoir aller dans ce sens-là, parce que justement j'ai peu confiance dans d'autres institutions pour pouvoir en faire de même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres projets derrière, il n'y a pas de réélection possible, il n'y a pas de carrière derrière ça, c'est sinon servir cette mission et ce mandat, cet objectif de réduction des gaz à effet de serre. Et un petit mot sur la justice sociale.
Oui.
Le fait est qu'effectivement c'est un choc asymétrique, l'effondrement de la civilisation qui pourrait arriver, ou tout un ensemble de questions environnementales. C'est asymétrique, c'est-à-dire que ça touche d'abord les plus pauvres, ça touche d'abord les pays qui sont les moins responsables de ce problème.
Oui, ce que vous dites, c'est qu'on est inégaux devant le changement climatique.
Exactement, qu'il faut pouvoir prendre la partie prenante avec des personnes qui pourront être concernées et pas ceux qui sont à l'origine du problème.
Julien Blanchet, où en sont les travaux de la convention? Quelles sont les prochaines étapes? Ça va arriver quand tout ça?
Alors la prochaine session de la convention, c'est donc le 10, 11, 12 janvier. Les citoyens, ils ont pris connaissance du mandat qui était le leur, de leur autonomie, de là où ça se passait, donc le Conseil économique, social et environnemental, le Premier ministre est venu, quels étaient leurs interlocuteurs, les garants, le comité de gouvernance. Ensuite, ils ont commencé à envisager la complexité des sujets, c'est-à-dire... quand on met côte à côte, ça a été le cas par exemple, la FNSEA et Greenpeace...
mal à se parler peut-être.
Non mais ce qui est intéressant, parce qu'on peut être dans la société du conflit. On a vu, ça fait des années que ça fonctionne et que ça fonctionne pas. On peut aussi se dire que ces gens-là, vu de leur fenêtre, ils ont pas tort. Le problème, c'est que c'est vu de leur fenêtre. Et les citoyens, ce qu'ils ont, ils ont un chemin à tracer. Et donc, ils ont appréhendé cette complexité-là. Ensuite, sur la troisième session, ils ont pu appréhender la question de la justice sociale, notamment, et puis également avoir un nombre très important, avec plus de 40 intervenants qui formulaient des solutions. Maintenant, il faut qu'ils puissent prioriser et voir quelles sont les solutions les plus impactantes.
Merci beaucoup Julien Blanchet, merci à vous Yanis Bralleret d'avoir participé à cette émission passionnante, mais qui se termine déjà malheureusement. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, en principe, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Bonjour à tous, c'est Juan Gomez.